Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir d'accueillir Emmanuel Jafflin. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître chez François Bourin, éditeur, La petite philosophie de l'entreprise. Ce n'est pas d'ailleurs votre premier ouvrage puisque vous avez fait paraître précédemment, je crois toujours chez Bourin, L'éloge de la gentillesse en 2010 et du petit éloge de la gentillesse en 2011. Alors, on retrouve cette gentillesse aussi dans la petite philosophie de l'entreprise, entreprise sur laquelle vous portez un regard à la fois de philosophe, mais aussi de sociologue en quelque sorte. Donc, malgré tous les livres parus sur le management, tout se passe comme si la réalité économique faisait résistance au projet d'humaniser l'entreprise, c'est votre premier constat. En fait, les relations humaines qu'elle abrite et dont elle se nourrit changent peu, envoyant ainsi par le fond la noble idée de mettre l'homme en son centre. Donc vous, vous plaidez plutôt pour des relations humaines dans l'entreprise empreintes de gentillesse. Est-ce que c'est ça un peu votre message ?
C'est absolument ça que je vais détailler maintenant. Alors pour expliquer aux auditeurs de l'Académie française, pourquoi un troisième livre sur la gentillesse? D'abord, j'ai écrit un livre de SHS, de sciences humaines et sociales, enfin un livre de philosophie qui était un peu touffu. J'en ai fait une version vulgaire, vulgarisée mais pas vulgaire, c'est le petit éloge de la gentillesse. Et le troisième, qui ne porte pas le titre de la gentillesse, a voulu en faire une application au monde de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que, pour deux raisons, la première c'est que l'entreprise est au cœur de l'actualité, enfin on peut pas ouvrir les médias sans entendre parler d'économie. Et la deuxième raison, c'est que l'entreprise, en tout cas dans le monde occidental qui est en perte de vitesse, qui n'a plus de croissance à deux chiffres, l'entreprise est la source de tensions, de conflits, de burn-out, de suicides, etc. Et on entend, comme les trains qui n'arrivent jamais à l'heure, on entend parler que de ce qui va mal dans l'entreprise. Et donc moi, je voulais me poser cette première question, est-ce que l'entreprise est un objet philosophique ? Et donc j'y ai répondu par ce livre en montrant que, et en sachant que la philosophie n'est pas un savoir, mais plutôt un pouvoir de questionnement. Et ce que je voulais, c'était questionner l'entreprise, en dégager les finalités et montrer comment le bien-vivre advient et dans l'entreprise et grâce à l'entreprise dans la société.
Voilà, alors justement dans ce questionnement, vous mettez en avant aussi les antinomies de l'entreprise. Vous en repérez quatre. L'entreprise virtuelle versus entreprise actuelle. On peut peut-être passer un peu en revue, enfin en tout cas, mettre en avant ces différentes antinomies. Quelle est celle qui vous paraît être la plus forte pesanteur parmi ces antinomies ?
Je crois que la première semble dessiner un destin à l'entreprise. On a l'impression que pour l'entrepreneur, le salarié est devenu un intrus et que l'entreprise idéale, c'est l'entreprise fantôme, c'est-à-dire celle qui, avec une poignée d'hommes, est capable de produire par le biais de la sous-traitance, si possible le plus loin possible, là où la main-d'œuvre est le moins chère possible, des richesses. Donc je crois que l'obstacle à l'entreprise, il est là, parce que si, et on le voit en Europe et dans le premier monde, la question se pose aux États-Unis, si dans l'entreprise il n'y a plus personne pour travailler, l'entreprise ne réalise plus cette deuxième finalité que j'annonce, puisque je dis que l'entreprise a deux finalités. La première, c'est évidemment de produire de la richesse, et la deuxième, c'est de tisser du lien social. Donc elle a la sociabilité en vue, et elle ne peut pas s'y déroger. Or, en évacuant le salarié, qui est effectivement, dans notre monde, une personne, c'est-à-dire quelqu'un qu'il faut respecter, qui du coup, a un coût, ou plutôt un prix plus élevé qu'ailleurs. Ailleurs où il est moins traité comme une personne, où il est davantage traité comme un moyen que comme une fin. Donc je crois que c'est la première antinomie qui est la plus...
Et alors le point que vous soulignez au passage, c'est que vous rappelez que les êtres humains qui passent l'essentiel de leur vie au travail aspirent que ce ne soit pas simplement une mauvaise parenthèse dans la vie, mais l'un des facteurs, c'est votre grande thèse, du vivre ensemble. Dans l'entreprise, ça doit être un des premiers facteurs du vivre ensemble.
Eh ben oui, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire, s'il y a deux finalités, l'entreprise peut pas être condamnée uniquement à produire de la richesse. Et en fait, je distingue dans mes autres livres différentes sphères de convivialité. Je dis que la famille, son lieu, c'est pas la gentillesse, c'est la sollicitude. Parce que dans la famille, il y a une seule personne qui existe. Donc on n'est pas gentil, on rend pas service à quelqu'un, on rend service à soi-même quand on rend service à sa mère ou à sa fille. En revanche, dans l'entreprise, il y a vraiment une place pour la gentillesse. Et je crois que l'entreprise, elle est là pour tisser du lien social, mais la bonne ambiance qu'elle crée, c'est une ambiance aussi qu'elle exporte en dehors d'elle. Donc si elle crée de la mauvaise ambiance en interne, elle en crée aussi dans la société.
Alors, vous touchez là au point central de votre ouvrage, la gentillesse dans l'entreprise, mais à l'épreuve de cette gentillesse. Alors, il y a un mélange entre l'entrepreneur et l'entreprise. L'entreprise, c'est un assemblage de parties prenantes, oui. Et au sommet duquel, en quelque sorte, se trouve l'entrepreneur et le dirigeant.
Oui.
Alors, comment le dirigeant, lui, peut être justement le dispensateur de cette gentillesse? Y a-t-il de la place pour ce que vous appelez le gentilhomme entrepreneur ou le gentilhomme dirigeant? Est-ce que c'est un retour au dirigeant chevalier qui donc a la place réelle des élites dans la société?
Alors c'est une jolie image, celle du chevalier. Moi j'emploie celle du gentilhomme parce que j'essaye de montrer que après la Révolution française, donc l'aristocratie en tout cas en France a périclité, mais elle a donné l'occasion à la République de faire de la gentilhommerie ou de la gentillesse une vertu morale et pas simplement un comportement social. Et ce comportement social repose sur l'acte de rendre service à quelqu'un. Et donc moi je crois que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne doit pas se comporter comme un prédateur. Donc quelqu'un qui n'a qu'à l'esprit des tableaux, des chiffres, qui est un cost killer, qui va sans arrêt mettre une pression dans l'entreprise pour que tout le monde soit sous pression, celui-là, à mon avis, va griller son entreprise assez rapidement. Ça va être contre-productif et du coup, il ne se comporte pas ni comme un top manager efficace, un entrepreneur ou un dirigeant, mais ni comme un gentilhomme. Et je crois que quelque part, il se tire dans les pieds qu'à un moment donné, c'est même l'image de l'entreprise qui est en pâtit.
Alors, vous créez d'ailleurs un néologisme, je crois pas qu'il existait avant vous, c'est celui de la gentrification.
Directement inspiré de la gentry anglaise, d'accord, qui est elle-même inspirée par la gentilhommerie française. Donc cette noblesse, qui n'est pas une noblesse de sang, qui est plutôt une noblesse de campagne, une noblesse petit trait, mais cet anoblissement qui vient du comportement, qui vient pas de l'héritage. Et donc je pense que le chef d'entreprise doit avoir ces deux vues en perspective. Produire la richesse, mais savoir que ce qu'il produit, c'est de l'humanité. Platon, je file la métaphore du tisserand, si j'ose.
Tout à fait.
Platon utilise cette métaphore pour désigner l'homme politique. Il dit l'homme politique, c'est celui qui entrelace l'un et le multiple. Et il dit cet entrelacement, en grec on dit synploké, cet entrelacement il a pour but justement de tisser des relations. Donc l'homme politique est fort de ça. Et moi je dis que l'homme politique dans notre société est très en recul, précisément parce qu'il n'a pas la main sur le levier économique, et que cette mission, elle incombe en partie à l'entrepreneur. Alors, je mets une hiérarchie dans les finalités. Il est évident que pour l'homme politique, la finalité première, c'est bien la police, c'est bien la cité, c'est bien le tissage. Cette finalité n'est que seconde pour l'entrepreneur. Il doit d'abord faire en sorte que son entreprise soit fructueuse. Mais il n'empêche qu'il ne peut pas le faire en dépit de tout et en mettant à feu et à sang et en créant une atmosphère qui crée plus de conflits et une mauvaise image de son entreprise que cette activité de tisserand à laquelle il se doit.
Alors créer cette gentillesse, c'est donc un défi dans cette mondialisation, dans cette globalisation. Mais vous citez bon marché, la difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre. Vous avez l'impression que aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, avec un nouveau gouvernement, on va dans ce sens au moment où on sent quand même pointer du doigt des anathèmes, notamment sur les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise. Est-ce que vous croyez aussi que la gentillesse, il ne faut pas qu'elle émane de la sphère politique avant d'être irriguée par les dirigeants?
Alors c'est une question à laquelle je peux répondre déjà en disant que le philosophe pense sub specie aeternitatis. Ce qui m'intéresse, c'est de penser l'entreprise dans l'absolu.
D'accord.
Maintenant, dans le contexte de la France actuelle et des 5 premiers mois du gouvernement, je suis pas sûr d'être en mesure de dire qu'on va dans le bon sens, mais je trouve que les uns et les autres...
Votre impression, du moins.
Non, bah oui, enfin, je suis partisan d'une philosophie impressionniste, alors je peux donner la mienne. Mon impression, c'est qu'il y a c'est un théâtre d'ombre et il y a de faux rôles qui sont pris. Les uns s'auto-désignent comme pigeons. Enfin, à mon avis, on fait fausse route. Je pense qu'il faut trouver un chemin viable. Et la gentillesse, c'est pas simplement de la théorie, c'est de la pratique. Donc, il faut que les gens soient généreux les uns avec les autres. Mais je pense très sincèrement que l'entrepreneur a un plus grand rôle à jouer que le politique pour la sociabilité des hommes. Si dans une entreprise, on est capable de créer, puisque je montre dans le livre qu'il y a pas mal de tentatives qui existent, que ce soit des labellisations qui permettent d'évaluer la qualité de vie dans l'entreprise. Mais je crois pas en ces normes objectives qui peuvent se mesurer par des quantas. Je pense qu'il faut au contraire, c'est pour ça que je parle d'une poétique du management, il faut faire appel à la subjectivité de chacun et pas faire rentrer les individus dans des cadres, dans des fiches, faire du reporting. Voilà, je pense que la créativité de chaque personne, de chaque salarié, de chaque sujet, est la condition d'une entreprise vivante. Le reste me paraît un carcan un peu mortifère.
Alors, vous vous rappelez en conclusion cette histoire tragique dans laquelle il ne faudrait pas que nos entreprises et notre monde basculent, en citant ce passage du Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, que je lis parce qu'effectivement, on peut penser ce qu'on veut de Céline, mais en tout cas, ses écritures et ses lignes sont assez sublimes. Tout tremblait dans l'immense édifice et soi-même des pieds aux oreilles possédés par le tremblement. Il en venait des vitres et du plancher et de la ferraille, des secousses vibraient de haut en bas. On en devenait machine soi-même à force et de toute sa viande encore tremblante dans ce bruit de rage énorme qui vous prenait le dedans et le tour de la tête et plus bas vous agitant les tripes et remontait aux yeux par petits coups précipités, infinis, inlassables. À mesure qu'on avançait, on les perdait, les compagnons, on leur faisait un petit sourire à ceux-là en les quittant comme si tout ce qui se passait était bien gentil, on ne pouvait plus ni se parler, ni s'entendre. Et donc, votre vœu de gentillesse, c'est précisément de ne pas se retrouver dans cette situation. Vous en tirez la moralité suivante, entre l'humanisation discrète et efficiente de la gentillesse et la déshumanisation et le devenir machine de l'homme dans l'entreprise, il y a l'homme et ses choix, et vous essayez de contribuer à travers votre nouvelle parution, La petite philosophie de l'entreprise, qui est parue chez Bourin, 184 pages, 16 €, à faire en sorte que ces choix d'hommes soient pertinents. En tout cas, bravo pour
Merci à vous.
Cette bouffée d'oxygène dans un environnement qui est un petit peu déprimant, en faisant cet éloge de la gentillesse et en la transposant par la philosophie dans l'entreprise. En tout cas, bravo pour ce que vous faites.
Merci de votre invitation.
Et plaisir de vous retrouver sur notre antenne. Je rappelle que vous êtes agrégé de philosophie, ancien diplomate en Amérique latine et en Afrique, et que vous enseignez au lycée La Canale de Sceaux. Encore bravo.
Merci à vous.
À vous.